dans le deuxième livre des rois, toujours au chapitre 4 encore, à partir du verset 18. Deux rois, chapitre 4, verset 18. Et l'enfant grandit, et il arriva qu'un jour il sortit vers son père, vers les moissonneurs, et il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit au serviteur, « Porte-le à sa mère !» Et il l'emporta et l'amena à sa mère, et il resta sur ses genoux jusqu'à midi et mourut. Et elle alla et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle ferma la porte sur lui et sortit. Et elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes et une des ânesses, et je courrai jusqu'à l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Comment vas-tu vers lui aujourd'hui ? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Et elle dit, « Tout va bien. » Elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune homme, « Mène-la et marche. Ne t'arrête pas dans la course, à moins que je ne te le dise. » Et elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Et il arriva que, quand l'homme de Dieu la vit de loin, il dit à Géasi son jeune homme, « Voici cette tsunamite. Cours maintenant, je te prie, à sa rencontre, et dis-lui, tout va-t-il bien ? Ton mari va-t-il bien ? L'enfant va-t-il bien ?» Et elle dit, « Bien. » Et elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne, et elle le saisit par les pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser, et l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a pas déclarée. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et il dit à Géasi, « Saint-Hérin, et prends mon bâton en ta main, et va-t'en. Si tu trouves quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. » Et tu mettras mon bâton sur le visage du jeune garçon. » Et la mère du jeune garçon dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et il se leva et s'en alla après elle. Et Géasi les devança, et il mit le bâton sur le visage du jeune garçon, mais il n'y eut pas de voix, pas de signe d'attention. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta disant, « Le jeune garçon ne s'est pas réveillé. » Et Élisée entra dans la maison, et voici le jeune garçon était mort, couché sur son lit. Et il entra et ferma la porte sur eux deux, et supplia l'Éternel. Et il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur sa bouche, et ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur ses mains, et se courba sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa, et il se retirait et allait par la maison, tantôt ici, tantôt là, et il montait et se courbait sur lui. Et le jeune garçon éternua par 7 fois, et le jeune garçon ouvrit ses yeux. Et Élisée appela Géasi et lui dit, « Appelle cette tsunamite. » Et il l'appela, et elle vint vers lui. Et il dit, « Prends ton fils. » Et elle vint, et tomba à ses pieds, et se prosterna en terre. Et elle prit son fils et sortit. Et dans le chapitre 8, les versets 1 à 6 que nous avons lus ce matin. Chapitre 8, versets 1 à 6. Et Élisée parla à la femme, au fils de laquelle il avait rendu la vie, disant, « Lève-toi et va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras séjourner. Car l'Éternel a appelé la famine, et même elle viendra sur le pays pour 7 ans. » Et la femme se leva, et fit selon la parole de l'homme de Dieu, et s'en alla, elle et sa maison, et séjourna au pays des Philistins 7 ans. Et il arriva, au bout de 7 ans, que la femme s'en revint du pays des Philistins. Et elle sortit pour crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et le roi parlait à Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, disant, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et il arriva que, tandis qu'il racontait au roi comment il avait rendu la vie à un mort, voici, la femme au fils de laquelle il avait rendu la vie vint crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, c'est ici la femme, et c'est ici son fils auquel Élisée a rendu la vie. » Et le roi interrogea la femme, « et il lui raconta tout. Et le roi lui donna un eunuque, disant, « Rends-lui tout ce qui lui appartient et tout le revenu des champs depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Nous avons vu ce matin cette femme, cette tsunamite, nous avons souligné la foi qui l'a caractérisée en ce qu'elle avait et son intelligence spirituelle. Elle avait tenu sa place au milieu d'un peuple idolâtre. Elle était fidèle à Dieu.
Elle confiait à l'Éternel. Elle faisait partie de ce résidu fidèle de ces quelques âmes que l'Éternel connaissait et qui étaient fidèles à sa parole. Elle avait foi, elle avait confiance et s'appuyait sur l'Éternel.
Son intelligence spirituelle lui avait permis de discerner en Élisée un homme de Dieu, un saint homme de Dieu, a-t-elle dit. Et nous avons souligné aussi les caractères du prophète Élisée. On a souligné sa patience, son humilité. Il était serviteur d'Élie, le prophète. Il versait l'eau sur les mains du prophète Élie. Et jusqu'au moment où l'Éternel lui a montré que c'était le moment de prendre son service, il est resté serviteur, il est resté humble et soumis à son maître. Et à partir du moment où l'Éternel l'a envoyé lui-même, alors il a marché fidèlement dans le service que l'Éternel lui avait confié et il a manifesté la grâce vis-à-vis de ces pauvres. On a parlé des pauvres, du peuple d'Israël et de ceux qui avaient des besoins. C'était dans le royaume d'Israël. On a donc souligné, d'un côté, les caractères de foi de cette femme, son intelligence spirituelle, et d'un autre côté, le zèle et en même temps l'humilité de ce serviteur qui a attendu le temps convenable pour commencer son service, au moment où l'Éternel le lui a indiqué. Nous allons voir, cet après-midi, nous allons voir encore la foi de cette femme. Sa foi va être éprouvée. Elle va perdre ce fils qu'elle avait reçu de la part de l'Éternel par la parole d'Élisée, ce fils qu'elle désirait depuis longtemps, qui était et qui a été pour elle un miracle, mais une réponse à sa foi. Et elle va perdre ce fils. Nous l'avons lu, il meurt. Eh bien, malgré cette douloureuse épreuve, nous pouvons voir qu'à deux reprises, elle dit « Tout va bien ». Et elle répond « Bien ». Sa foi s'appuie sur l'Éternel et elle retourne voir Élisée le prophète pour lui présenter la chose. Elle s'attend à lui. Sa foi ne défaille pas. Et dans « L'Éternel répondra à sa foi », son fils lui sera rendu par le moyen d'Élisée. Et nous voyons dans le chapitre 8 que là, elle obéit encore à la parole d'Élisée, qu'elle considère comme toujours comme un saint homme de Dieu, comme étant la parole de Dieu, et elle part du pays dans lequel elle était, en raison de la famine qui allait s'abattre sur le pays. Elle obéit à la parole d'Élisée. Et quand elle revient, elle a tout perdu. Elle a tout perdu, tous ses biens, tout est parti. Mais l'Éternel permet qu'elle recouvre tous ses biens. Et comme on l'a dit ce matin, elle a retrouvé tout son héritage.
La tsunamite va donc apprendre une autre leçon. Dieu est donc celui qui donne la vie. Il est aussi le Dieu de la résurrection. Et elle va l'apprendre d'une manière bien douloureuse. Voici que ce fils qui lui a été donné par pur miracle lui est repris. Et on peut bien, en pensant à ces choses, avoir en mémoire Genèse chapitre 22. Il nous semble qu'elle aussi va gravir en quelque sorte les pentes de cette montagne de Morija. Nous nous souvenons de ce que Dieu avait pu dire à Abraham, lorsqu'il le mit à l'épreuve, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le sur la montagne que je te montrerai. » Mais il avait de la foi, comme le souligne Hébreux 11, et cette Tsunamite aussi a de la foi. Une épreuve donc difficile à comprendre, difficile à interpréter. Et il se pourrait que quelques bien-aimés ici se trouvent lui-même devant une épreuve difficile à interpréter et qui suscite beaucoup de pourquoi. Pourquoi telle chose m'est arrivée? Pourquoi ce fils est repris? Pourquoi telle et telle autre chose m'arrive? Je ne comprends pas. Et l'incompréhension peut ajouter à l'intensité de l'épreuve de la douleur. Alors que ces bien-aimés puissent suivre l'itinéraire spirituel de la Tsunamite. Il semble que dans un premier temps, à cette grande épreuve, va s'en ajouter une autre, celle de son mari qui, dans l'heure, hélas, ne lui est d'aucun secours. On l'a dit ce matin, c'est un homme de nouvelle lune, de sabbat. Il n'est pas exclu qu'il ait eu une certaine foi. Mais pouvait-il comprendre la foi de son épouse dans une heure pareille? Probablement pas. Elle ne lui explique pas ce qui se passe. Elle ne lui explique pas la raison de sa démarche. Mais va se diriger vers le mont Carmel où se tient le prophète Élisée. Et tout ce qu'elle fait à son égard est de lui faire entendre le tout va bien de la foi. Voilà ce qui agit dans les jours d'épreuve. La foi qui perce le sombre nuage, la foi qui s'élève bien plus haut que l'épreuve, la foi qui regarde aux ressources de Dieu, et tout va bien. Heureux sommes-nous si, dans de tels moments, nous pouvons nous élever au-dessus des larmes, des souffrances, par le moyen de la foi. Et tout va toujours bien pour la foi, quelles que soient les circonstances. Et suivons toujours son itinéraire spirituel. Nous la voyons à la montagne de Carmel, qui a du reste toute une signification que nous verrons probablement. Et où la voyons-nous? Nous la voyons au pied de celui qui est le porteur de la parole de Dieu. Au pied d'Élisée, elle le saisit, les pieds d'Élisée. Et cette scène, sans doute, nous fait penser à Jean 11, où dans un jour de deuil, nous voyons Marie de Béthanie au pied du Seigneur pour recevoir la consolation dont elle a besoin, elle est là à ses pieds. Et quelle heureuse parle encore, malgré les larmes, elle est aux pieds donc d'Élisée. Et elle dit ce qui est sur son cœur. Et heureux sommes-nous là encore si nous pouvons nous tenir aux pieds du Seigneur et lui dire ce qui pèse sur nos cœurs. Peut-être des choses assez peu raisonnables, des choses qui nous peinent dans ces moments redoutables. Mais la Tsunamite va dire à Élisée ce qui pèse sur son cœur. Puissions-nous l'imiter et comprendre que c'est bien là le seul lieu heureux où dans des telles heures on peut trouver repos, paix, joie et consolation. Son mari fut une épreuve qui s'ajoutait à l'épreuve, et ne peut-on pas dire que Géasi et son bâton, enfin c'était le bâton du prophète, est-elle une autre épreuve qui s'ajoute à sa peine? Et on peut bien se demander d'emblée, c'est une question que l'on peut se poser, la raison de l'échec, puisque c'en est un, l'échec du serviteur et de son bâton. Mais on remarquera, et c'est peut-être intéressant de voir que cet échec, la Tsunamite l'avait en quelque sorte pressentie. Elle entend le prophète parler, dire à Giasi ce qu'il doit faire, prend le bâton, etc. Mais elle voit plus loin, en quelque sorte. Et regardez ses paroles dans le verset 30. L'Éternel est vivant et ton homme est vivant, que je ne te laisserai point. Dans de tels moments, elle s'attache à celui qui porte la parole de Dieu. Elle a une confiance très limitée dans le serviteur et dans le bâton d'Élisée. Vous remarquerez, c'est peut-être intéressant, qu'elle répète, on peut dire parole pour parole, à la lettre, très exactement la phrase qu'Élisée lui répéta trois fois, donc, dans le deuxième chapitre. Lorsque, dans le deuxième chapitre de ce second livre des Rois, nous voyons en effet que Élie va en somme tester Élisée, les versets 4, Élisée, je te prie, reste ici, et puis qu'est-ce que Élisée va répondre? L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et trois fois il entend ces choses, cette même question, reste ici, trois fois il va répondre très exactement la même chose. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans de tels moments, Élisée s'attache alors à Élie. Et c'est très exactement ce que fait la Tsunamite. Il semble que elle dit, en somme, je ne suis pas sûr du tout de la réussite de l'entreprise, le serviteur, le bâton d'Élisée, mais il y a une chose dont je suis sûr, j'ai à m'attacher dans cette heure-là, à celui qui porte la parole de l'Éternel. Belle leçon pour nous. On peut se demander en effet les raisons de cet échec. Nous ne voulons pas donner une réponse trop précise. Sur ce point, on peut peut-être formuler une hypothèse. Déjà, on peut se demander dans quel état était Giasi, n'est-ce pas? Nous voyons dans le chapitre suivant ce qu'il va faire exactement dans l'histoire de Naaman, mais on peut se demander vraiment si déjà son cœur n'était pas tourné vers ces choses qu'il désirait avec tant de force, tant d'ardeur, la richesse, la haute position sociale. Quand il portait ce bâton, nous nous demandons en fait où était son cœur. Puis nous pouvons bien dire aussi que ce bâton parle de la marche. On s'appuie jour après jour sur le bâton. Nous avons en effet des promesses de Dieu pour ce qui concerne les difficultés familiales, personnelles, de travail, que sais-je. Nous avons des promesses. C'est le bâton. Mais quand vient une crise, quand vient une épreuve d'une intensité extraordinaire comme celle qui est devant nous, il semble bien que le bâton alors devienne, pour ainsi dire, inefficace. Il faut ce combat de prière, et c'est bien un combat de prière qui est placé devant nous dans ces lignes, une agonie, on pourrait dire, une agonie de prière.
Un mot sur le bâton. Le bâton dans la parole a au moins trois significations. La première, comme on vient de nous dire, c'est pour s'appuyer, pour marcher. C'est le bâton du pèlerin. C'est le bâton du pèlerin. Jacob en connaissait quelque chose. Et après avoir éprouvé ce que c'est que d'être pèlerin, lui qui finalement devait reconnaître qu'il avait été peu pèlerin, puisqu'il dit « les années de mon pèlerinage ont été peu de choses. Il était surtout, pendant très longtemps, occupé à s'installer. Mais à la fin, il adorait sur son bâton. Donc, première chose, pèlerinage, étranger. La deuxième chose, le bâton, c'est le bâton de l'autorité. On trouve dans la parole, c'est le bâton de l'autorité. Il le briserait avec un sceptre, avec un bâton. Les nations. C'est celui Seigneur en a un, c'est le bâton d'autorité. Ensuite, Le bâton, c'est pour corriger, nous le savons. Et on peut dire que toutes ces choses ont un caractère moral qui caractérisait ce prophète. Premièrement, il était un étranger céleste. Deuxième chose, il avait une autorité morale, on l'a assez dit ce matin, répété, montré. Troisième chose, c'était pour corriger, c'est la parole de Dieu. On a cité cette parole aussi ce matin de Timothée, 3 ou 4, que toute parole était inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger. Et le prophète, lui, il maniait ces choses spirituellement. Mais quand un homme charnel veut utiliser ces choses, cela n'a aucune valeur. Il faut que nous fassions bien attention que, à notre position, et nous savons bien que nous pouvons être croyants, nous pouvons tout être et nous pouvons être charnels. Les Corinthiens avaient tous les dons possibles, tous les dons de grâce, il n'en manquait d'aucun, et ils étaient charnels. Et le résultat, c'est qu'il n'y avait pas d'édification pour l'assemblée de Dieu. Et voilà dont il est question. Et la Sunamite, elle avait discerné cela. Son discernement spirituel lui avait montré que malgré tout ce que Élisée avait à sa disposition de la part de Dieu, eh bien, si ces choses étaient mises entre les mains d'un homme charnel, cela ne pouvait avoir aucune valeur. Maintenant, la deuxième chose que nous avons vue ici, nous avons vu que c'est la manière dont, par l'épreuve, le Seigneur amène une âme jusqu'à lui. Et dans la position la plus intime, la plus élevée que nous pouvons prendre devant Dieu, que nous pouvons prendre devant le Seigneur, c'est cette position d'adorateur. Je sais bien qu'ici, elle se prosterne devant Élisée à la fin. Mais ce n'est pas la position de ce... Nous avons à nous prosterner devant un homme. Si elle se prosternait devant Élisée, c'est parce qu'elle avait vu en Élisée la personne de Dieu. Celui qui portait la parole de Dieu. Alors au début, cette femme, elle voyait le prophète de loin. Puis ensuite, elle est allée à sa rencontre et l'a invité dans sa maison. L'a invité à sa maison, lui a donné à manger. Elle n'était pas à sa table. Il ne faut pas penser qu'elle était à sa table. Dans tout l'Orient, quand il y a un visiteur, les femmes, les épouses, d'ailleurs encore maintenant, ne mangent pas à la table. Donc elle servait. Elle servait à table comme Marthe servait à table. Remarquons que Marthe servait à table et Marie était au pied. Il n'est pas dit qu'elle mangeait à table avec eux. Elle avait donc cette position qui était quand même vis-à-vis d'Élisée, d'un hôte de marque. Elle avait quand même constaté que c'était un hôte de marque et elle le servait. Ensuite, on voit un peu plus loin qu'elle va le faire entrer dans sa maison. Elle va demander à son mari de construire une chambre. Elle a donc un hôte dans la maison. Là aussi, elle le sert. Mais on voit qu'elle ne s'approche pas très près de lui. Elle le sert fidèlement et avec empressement. Et c'est à ce moment-là que après une certaine période, que Élisée intervient. Et il dit à Géasi, appelle cette Sunamite. Il a dit ensuite, et il l'appela, elle se tint devant lui. Dans l'original, ce n'est pas dit ainsi. Elle se tenait effectivement devant lui. Mais il est dit, dans une distance où il pouvait la voir. C'est-à-dire qu'elle n'était pas approchée, elle était certainement au moins aussi loin que le mur là-bas. C'est pour ça qu'il parle à elle par l'intermédiaire de Géasi. Et il dit à Géasi, dis-lui, je te prie, tu nous as montré beaucoup d'empressement. Cela explique un petit peu. Parce que si elle était devant lui, il aurait pu lui dire directement, il prend un intermédiaire. Donc Géasi fait l'intermédiaire. Et alors elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. On a dit ce matin, il lui demande, faut-il faire quelque chose pour toi? Première épreuve de la foi. Nous savons que chaque fois que la foi est active, il y a l'épreuve. L'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt. Je ne peux pas, et chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas affirmer que nous croyons quelque chose, que nous mettons notre confiance dans le Seigneur, sans que le Seigneur, un jour ou l'autre, nous mette à l'épreuve sur ce que nous professons. Et voilà la mise à l'épreuve. Qu'est-ce que tu professes? Tu marques de l'empressement? Est-ce que c'est de l'empressement réel? Je vais demander quelque chose pour toi au roi. Elle ne tombe pas dans le piège, ce n'est pas un piège, mais l'épreuve, elle l'a subie avec victoire, parce que sa foi la soutient. La foi dans cet homme dont elle a senti ses qualités profondes. On peut dire qu'elle n'a encore rien dessus de lui, mais elle a été attirée par sa bonté, par ce qu'il est, par ses qualités morales. Résultat, elle est approchée. Et c'est chaque fois ce qui se passe. À travers une épreuve passée avec Dieu, nous apprenons à mieux connaître Dieu. Nous connaissons quelque chose de lui. La voilà qui est approchée. Il lui dit, eh bien, voici, tu as montré pour moi cet empressement, faut-il faire quelque chose? J'habite au milieu de peuple, et il dit, appelle-la. Et il appela, et elle se tint dans la porte. Elle était au-delà de la porte, elle n'était pas entrée. Et voilà qu'elle est à la porte. Elle est à la porte. Et alors il lui dit, ah, dans un an, eh bien tu embrasseras. Tu embrasseras en fils. Ou elle lui dit, ne me trompe pas, mais sa foi est vivante. Et un an après, elle embrasse son fils. Et ce fils, probablement, pendant 3-4 ans, elle va jouir de ce fils-là. On peut dire qu'il devait avoir entre 3 et 4 ans, parce qu'il pouvait déjà courir. Le règne de Joram est un règne de 12 ans, il y a 5 ans de famine. Donc, cela se passait avant la famine. Il fallait que c'était déjà pendant le règne de Joram. Donc, probablement, cet enfant avait entre 3 et 4 ans. Il meurt sur ses genoux. Il meurt sur ses genoux. Et puis après, il y a ce que nous avons vu. Alors, elle va vers le prophète. Elle va vers le prophète, et puis, elle va aller à ses pieds. Elle va aller à ses pieds. Voilà, elle sait maintenant une chose. C'est elle-même qui prend cette initiative. Elle va se jeter à ses pieds, elle va prendre ses pieds. Elle a compris qu'il l'aimait. Et elle a compris qu'il avait toutes les ressources en lui, que celui qui avait donné son fils, elle sait bien que c'est par l'intermédiaire de Dieu, il ne va pas la repousser. Et cet homme qui est là, et bien souvent, ne pensons pas tout de suite que Géasi, c'est un incroyant. Ça peut être un frère. Bien souvent, un frère se met empêche une âme de venir au Seigneur. Nous avons ainsi, d'ailleurs, les gardes dans le Cantique des Cantiques qui empêchent une âme, dans un certain sens, de venir vers le bien-aimé. Ils la battent. Nous avons aussi les disciples qui empêchent les enfants de Dieu. Mais elle sait. Elle sait que celui-là, il a un cœur pour moi. Et elle va vers lui. Remarquez une chose. La femme, c'est M. Bellet qui a écrit dans ses courtes pensées, il a écrit, et je ne vais pas non plus m'approprier des paroles qui ne sont pas les miennes. Il dit, la veuve de Sarepta a pris son mort dans son sein. La Sulamite, elle l'a mis sur le lit du prophète. La mort a rendu au premier ou a fait souvenir la première de ses péchés. Mais pour la deuxième, elle lui a fait souvenir toutes les ressources qu'il y a de grâce et d'amour qui sont dans le cœur de Dieu. Et ici, ce que nous trouvons alors, nous voyons cette femme. Elle a de l'amertume dans l'âme et ne la repousse pas. Et elle saisit ses pieds dans une intimité profonde, mais parce qu'elle sait qu'il ne va pas la décevoir. Quelle parole pour son cœur quand il lui a dit « Ne la repousse pas, ne la repousse pas, son âme est pleine d'amertume. » Ensuite, il y a le bâton du prophète. « Va, dit à Géasi, porte-le. » Non. Elle dit « Je n'en veux pas de ce bâton-là. Tu vas venir avec moi. » Et nous pensons au bonheur de la femme qui va voir le prophète aller avec elle, mais pensons au bonheur d'Élisée, au bonheur du Seigneur. Quand une telle foi est manifestée qu'il le glorifie, qu'est-ce qu'il a dit? C'est peut-être la chose la plus merveilleuse. Il n'est pas dit qu'il... Il a dit, il alla après. C'est lui qui suit, dans un certain sens, ce chemin moral que cette femme a pris. Elle a compris, elle a discerné ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu pour la bénir. Et c'est lui qui la suit. Quel bonheur pour le cœur du Seigneur quand il nous voit ainsi emprunter les siens, qu'ils l'ont glorifié, emprunter un chemin de foi. Et finalement, à la fin, quand il lui rend son fils, il y a un moment où elle ne peut pas être avec lui. Votre frère dira quelque chose, il faut qu'il soit seul, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de Géasi, il ne faut pas qu'il y ait de Marie, il ne faut même pas qu'il y ait de Sunamite, il faut qu'il soit seul avec son Dieu, quand face de la mort. Mais après, quand elle prend son fils, elle se trouve à ses pieds. C'est devenu une adoratrice. Et cela, pour le cœur de Dieu, pour le cœur du Seigneur, c'est la chose la plus merveilleuse, parce que c'est de telle qu'il cherche.
Quelques pensées à propos de l'expression « tout va bien ».
ce qui veut dire « tout est paix ». C'est le langage de la foi. Il est inimitable pour une âme qui n'a pas les mêmes exercices. C'est le « ne vous inquiétez de rien » de Philippiens 4. Mais ce n'est pas pour autant que l'on sera inactif dans son cœur et dans son esprit. Et c'est ainsi qu'il est ajouté « mais en toute chose exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce ». Et la première réponse de Dieu, c'est celle que goûte cette sainte femme, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Pour elle, son cœur et ses pensées sont tournés vers celui qui est le représentant de Dieu, le porteur de la parole de Dieu, celui qui détient les ressources divines. Celui par qui les promesses de Dieu lui avaient été formulées, elle avait eu la récompense de la foi, elle avait honoré le prophète en qualité de prophète, elle avait reçu la récompense d'un prophète, Matthieu 10, 41, et nous savons que sa foi était engagée dans un tel chemin où, malgré la mort, elle sait se tenir à la hauteur de cette épreuve. Ceci est tout à fait remarquable. Quelquefois, nous nous effondrons devant une épreuve que nous n'avions pas, pour laquelle peut-être nous n'étions pas suffisamment préparés. Mais là, il n'y a rien de cela. Et c'est en cela qu'elle est la digne fille d'Abraham. Il y a le même calme, la même tranquillité que lorsqu'Abraham gravit les pentes, en effet, du mont Morija. Le monde de l'amertume au sens original du mot, eh bien cet homme-là est soumis devant l'épreuve suprême de Dieu. Il a été lui-même soumis à une succession d'épreuves avant celle-ci, qui est l'épreuve de Dieu, envoyée directement par Dieu parce qu'il était, sa foi était à la hauteur de cette épreuve. Nous le voyons dans une entière soumission qui se traduit d'ailleurs pratiquement par l'obéissance sans discussion à ce que Dieu vient lui dire. Et il s'en va aussitôt pour offrir son fils en sacrifice. Il y a d'ailleurs le même calme chez Abraham lorsqu'il lie son fils sur l'autel que lorsqu'il le délie, quand l'Éternel lui dit qu'il y a un substitut pour son fils. Ceci est tout à fait admirable, et c'est dans ce sentier-là que marche cette sainte femme. Alors elle peut prononcer ce « tout va bien », paix. Paix dont elle jouit dans son cœur parce qu'elle a Dieu dans son cœur. Et c'est alors ce que nous avons aussi dans Romains 8, comme nous le savons, « toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos ». Et dans ce « toutes choses » sont incluses toutes nos épreuves sans aucun doute. Et notamment les épreuves les plus nobles, celles que Dieu nous dispense de sa main. Et quand c'est Dieu qui nous éprouve, eh bien, tout est mesuré avec sagesse, avec amour, avec grâce, avec fidélité, aussi bien en intensité qu'en durée. Et quand l'issue de Dieu est là, tout est admirable, la foi se prosterne et elle adore. Je sais que tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils craignent sa face. Cette attitude de foi, eh bien, elle a été celle de bien des croyants tout au long des générations de l'humanité. Et aujourd'hui encore, nous pouvons réaliser un tel état d'âme. Et c'est en cela que cette portion de la parole nous est utile. Face à la mort, eh bien, le croyant doit aussi montrer qu'il est appuyé sur son Dieu, qu'il a confiance en son Dieu. Le juste a confiance même dans la mort, nous est-il dit, parce qu'il sait qu'au-delà de la mort, il y a la résurrection
qui est la réponse de la puissance de Dieu. Comme Abraham le savait, nous le voyons dans Hébreux 11, aussi bien pour Abraham d'ailleurs que pour cette sainte femme, les deux sont inclus dans cette galerie des portraits de la foi. Il nous est dit, tout d'abord pour Abraham, Abraham étant éprouvé, verset 17, a offert Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique à l'égard duquel il avait été dit en Isaac, tu seras appelé une semence. Ayant estimé, voilà la foi dans la résurrection, la foi estime, en se plaçant du côté de Dieu, ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts, d'où aussi en figure il le reçut. Et pour la femme de Sunem, il nous est dit, les femmes, verset 35, reçurent leur mort par la résurrection. Voilà comment Dieu a apprécié les mouvements d'une foi très pure et combien il a été glorifié dans l'attitude de cette femme. Sans doute cette épreuve a produit plusieurs effets. Tout d'abord, eh bien, pour le prophète lui-même, il nous est dit qu'il ne savait pas ce qui concernait cette femme. Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée. Donc, exercice de dépendance de ce serviteur de Dieu, qui certainement savait ce que c'était, comme il le dit, de se tenir devant Dieu. Mais quand un fait est là, eh bien, il s'agit se tenir devant Dieu plus particulièrement pour avoir le discernement de ce qui est à faire pour honorer Dieu. Donc, le serviteur lui-même, devant cette épreuve qu'était Élisée, le serviteur lui-même a été appelé à un exercice de dépendance. Et pour la femme, il y a au moins deux éléments. Tout d'abord, elle va connaître le Dieu qui ressuscite les morts, comme la famille de Béthanie. Sans doute, le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Il peut dire au tombeau de Lazare, « Je sais que tu m'entends toujours. » Mais lui-même n'échappe pas comme homme parfait à cet exercice de dépendance, puisqu'il reste là 2 jours encore. Et quand il est au sépulcre de Lazare, il y avait 4 jours qu'il était là. Eh bien, nous voyons que le Seigneur lui-même avait besoin de recevoir une parole de son Père pour agir dans la dépendance et magnifier la gloire de Dieu dans la résurrection de Lazare d'entre les morts. Et d'autre part, pour cette femme, il y a un autre point, c'est que Dieu, quand il nous soumet à des épreuves, eh bien, va jusqu'au bout. Car sa gloire est en jeu. Et alors, il faut que la foi ait son œuvre parfaite, comme nous dit Jacques. Et ceci est un point clé aussi dans notre vie chrétienne. La foi qui est mûrie à travers l'épreuve, il y a un moment où Dieu est glorifié. Et quand est-ce que Dieu est glorifié et peut arrêter l'épreuve ? C'est au moment où, pour employer la figure de Malachi, à propos du métal en fusion, le visage de celui qui soumet l'or à l'épreuve du feu est reflété dans la masse en fusion. C'est-à-dire, lorsque la gloire de Dieu est magnifiée, eh bien, c'est le moment où l'épreuve atteint son point culminant et la foi triomphe. Eh bien, après le tout va bien, elle va être, cette femme va assister à cette délivrance concernant son enfant pour lequel, sans aucun doute, elle avait tout remis entre les mains de Dieu, entre les mains du serviteur de Dieu. Nous voyons sans doute qu'il y a là aussi une différence quant à l'accomplissement de ce miracle. Élisée déploie beaucoup d'efforts. Il nous est dit qu'il supplie l'Éternel, il monte et se couche sur l'enfant. Il s'identifie bien sûr avec le mort, mis sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, se courbe sur lui, l'enfant se réchauffe et petit à petit il éternue, cette fois il revient à la vie. Quand il s'agissait du Seigneur, pour les trois résurrections que les évangiles nous relatent, une parole divine suffisait. Et il appelait les morts pour les ressusciter. Et nous voyons quel triomphe produit une parole de Dieu. Mais c'est le Dieu qui commande toute chose, qui était à l'œuvre, et nous assistons à ces résurrections remplies d'admiration, parce que nous aussi, nous croyons au Dieu qui ressuscite les morts.
La parole est très sobre dans l'exposé des faits qui nous sont relatés. Elle nous donne que ce qui est nécessaire pour notre enseignement, elle ne fait pas front en particulier sur les sentiments. Nous pouvons bien penser ce qui avait occupé longtemps l'esprit de cette femme lorsqu'elle désirait un enfant et qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle n'avait pas demandé l'enfant. Elle saura bien le dire au prophète. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur, verset 28. Elle avait caché ce qui était son désir le plus profond. Elle s'en était, semble-t-il, remis à l'Éternel. C'était ce qu'il avait trouvé bon devant lui. Elle s'inclinait. Elle n'avait pas d'enfant. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Que puis-je faire pour toi? C'était l'occasion de le dire. C'était l'occasion de le demander. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Elle ne l'avait pas demandé, mais elle l'avait obtenu. Parce que Dieu récompense la foi de cette femme qui s'était ainsi tenue devant ce prophète pour être enseignée de Dieu par lui. L'enfant lui a été donné au temps convenable et la parole sortie de la bouche d'Élisée ressemble fort à cette parole que Abraham et Sarah aussi avaient entendu en Genèse 18, à cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. Et alors nous ne voyons pas d'effusion particulière lorsqu'elle a obtenu ce fils attendu, un fils unique, le fils de sa vieillesse, le fils de la vieillesse de son mari. C'était là un enfant désiré, c'était là un enfant qu'elle a certainement profondément aimé. Mais la parole ne nous en dit rien. La parole nous dit simplement l'enfant grandit. Elle garde le silence sur ces années de la jeunesse, de la petite enfance de cet enfant, et des rapports, des relations certainement profondément intimes d'amour entre la mère et l'enfant. Et pourtant, tout est là. Toute l'épreuve est là. Toute l'épreuve est dans ces sentiments profonds d'affection que cette mère portait à son enfant. Il ne semble pas que le père ait porté de tels sentiments. L'enfant est malade, il est dans les champs, et bien renvoie-le à sa mère. Et lorsque sa mère s'en va de la ville, il ne semble même pas s'interroger au sujet de la santé de l'enfant. Qu'est-il advenu de cet enfant qui avait fort mal à la tête? Le père continue son travail. Il est occupé de ses champs, de ses moissonneurs. Mais la mère, qui vient de perdre un enfant qu'elle avait tant attendu, un enfant qui était tout pour elle, sur lequel, semble-t-il, elle avait pu porter toute son affection, un enfant unique, et qu'elle perd en un moment. Sans qu'il y ait de signe prémonitoire, en un instant, Dieu lui ravit l'enfant qu'il lui avait donné. Mais quelle épreuve pour la foi! Ne peuvent comprendre cela que ceux qui y sont passés, qui perdent un être cher avec lequel ils ont vécu des années d'affection profonde. Plus encore, quand une mère perd son fils unique, et j'en ai vu, c'est quelque chose qui est insondable. Il faut être dans ces maisons, dans ce moment-là, comprendre un peu ce qui peut se passer, dans le cœur de cette mère. Eh bien, elle n'en manifeste rien apparemment. Tout est à l'intérieur, tout est vrai, tout est profond. Ce n'est pas un cœur insensible, c'est un cœur broyé. Mais c'est un cœur qui connaît la parole de Dieu, qui s'attend à la parole de Dieu, qui connaît la puissance de Dieu. Elle a connu la puissance en vie, et elle va connaître maintenant la puissance en résurrection parce qu'elle n'en doute pas. Pourquoi court-elle si vite vers l'homme de Dieu? Pour être consolée? Non pas. Pour que l'enfant lui soit rendu. Rien de moins. Voilà la foi de cette femme, à quelle hauteur elle s'élève. Nous ne pensons pas qu'elle ait scellé son âne si vite pour courir après des consolations vaines. L'enfant n'était plus là. Non, l'enfant a été placé sur le lit de l'homme de Dieu, et sur ce lit-là, là où l'homme de Dieu s'est couché, là où il va s'identifier avec l'enfant mort, que cet enfant revivra parce que la mère en a la certitude quant à sa foi. Voilà jusqu'où la foi de cette mère s'est élevée, et c'est pourquoi elle entre dans la lignée de ces femmes de foi dont il est question en Hébreux 11, une lignée glorieuse en vérité. Des femmes reçurent leur mort par la résurrection. Non pas qu'elles aient demandé quelque chose d'impossible pour elles, mais quelque chose qui leur paraissait possible parce qu'elles ne doutaient pas de la puissance de Dieu en résurrection. Est-ce qu'il y a eu souvent des fois qui se soient élevées à de hauteurs pareilles? Certainement pas. La parole nous en mentionne quelques-unes, mais fort peu. Il faut véritablement arriver là dans des récits uniques pour montrer jusqu'où la foi peut s'élever dans des sommets que nous ne soupçonnons pas chez des croyants qui ont vécu avant de connaître le Seigneur, avant de connaître la puissance de résurrection du Seigneur, avant de connaître la puissance de l'Esprit qui opère, avant de connaître toutes ces choses merveilleuses, avant de connaître ce que nous connaîtrons bientôt en résurrection ou en transmutation, toutes ces choses qui nous sont familières et auxquelles nous croyons absolument, c'était des choses qui étaient bien loin de la foi des fidèles de ce temps-là et des plus fidèles, dirais-je, de ce temps-là. Mais c'était la foi de cette femme. Et cette femme a trouvé sa récompense, la récompense de sa foi. Et nous voyons cette foi briller dans ce qu'elle ne doute pas de ce qui va se passer. Non seulement il n'y a point apparemment de pleurs, de gémissements, de signes d'affliction profonde et inconsolable, mais il y a une sérénité qui nous confond. Le « tout va bien » et le « bien » du verset 27 est quelque chose qui nous confond. Quelque chose qui montre que cette femme n'avait qu'un objectif, trouver l'homme de Dieu afin qu'il vienne et qu'il ressuscite son enfant. Elle n'a pas d'autre objectif. Et pourquoi l'avait-elle? Parce qu'elle savait que ce Dieu qui lui avait donné son enfant dans des circonstances aussi extraordinaires et exceptionnelles saurait le lui rendre. C'était la foi d'Abraham. Et c'est pourquoi nous répétons si souvent que c'est une digne fille d'Abraham, parce qu'Abraham aussi a reçu son enfant comme d'entre les morts. Mais en face, il y a encore deux épreuves qui sont là sur le chemin de cette femme de foi. Deux épreuves. Celle de son mari d'abord. Celle de son mari. Nous avons vu qu'il était fort peu préoccupé apparemment de la santé de cet enfant. Mais d'un autre côté, il s'occupe de principes d'ordre religieux. Pourquoi vas-tu vers l'homme de Dieu aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. C'est surprenant que tu te rendes vers cet homme de Dieu alors que rien ne t'y pousse apparemment. Il pensait, dans son être probablement religieux, que si l'on allait vers l'homme de Dieu, c'était pour des questions d'ordre religieux. C'est ainsi d'ailleurs que beaucoup de chrétiens ou de soi-disant chrétiens font fond sur cette religion. Les hommes, on va trouver des hommes religieux parce qu'on a des questions religieuses à poser ou à résoudre. On va vers ces intermédiaires pour, semble-t-il, s'éviter d'aller vers Dieu lui-même parce que l'on a des questions à résoudre et qu'elles ne peuvent être résolues que dans des questions de forme religieuse. Nouvelle lune, sabbat, c'était institué par l'Éternel, c'était inscrit dans la loi, c'est fait à l'Éternel. Nous trouvons en nombre 28 ce qui concerne les nouvelles lunes, le sabbat, et ce qui devait être fait ce jour-là, ça n'était pas quelque chose d'inventé par l'homme, c'était bien une institution d'ordre divin. Mais on faisait fond sur ces institutions, on ne faisait pas fond sur Dieu lui-même. Telle était la position religieuse, semble-t-il, de ce mari. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas laissée retenir par ces remarques qui auraient pu être non pas seulement surprenantes pour être mais un obstacle pour aller vers l'homme de Dieu. S'il n'y a pas d'autre raison que pour cet enfant qui vient de m'être ravi d'aller vers l'homme de Dieu, s'il n'y a pas de question d'ordre religieux, alors pourquoi y vais-je? Mais précisément, cet homme ne savait pas que dans sa femme, il y avait une foi profonde, que cette foi, il ne pouvait pas la partager avec son mari, parce qu'il n'aurait jamais compris que sa femme se rendait vers l'homme de Dieu afin que l'enfant soit ressuscité. Impossible de communier avec son mari dans ce domaine-là. Elle est seule, mais elle triomphe en ce sens qu'elle s'élève au-dessus de la faiblesse de son mari pour aller seule et pour accomplir seule ce chemin de la foi. La deuxième obstacle, c'est ce bâton. C'était le bâton du prophète. Il avait certainement une valeur certaine, puisque Élisée lui-même l'emploie dans cette circonstance-là pour dire que ce bâton n'est pas simplement un bâton pour la marche, qu'après tout, il pourrait peut-être avoir une certaine valeur. Mais la femme ne croit pas aux valeurs de la religion. C'était encore le secours de la religion, ce bâton. On a dit, bien sûr, et à juste titre, qu'il avait une d'autres significations. Mais pour cette femme, il n'avait pas d'autre signification qu'une question de forme religieuse. Pour elle, il fallait le prophète lui-même, la puissance de Dieu dans le prophète, dans l'homme de Dieu. Il ne fallait rien moins. Dans ce monde, on voit beaucoup d'afflictions, on voit aussi beaucoup de questions où les âmes sont bouleversées, où elles sont travaillées par des questions d'ordre divers. Alors, on va chercher des secours dans la religion, dans l'effort, dans des vertus sacrées peut-être. Ici, on attribuait à ce bâton apparemment une vertu sacrée de faire quelque chose pour un mort. On connaît les sacrements, on connaît les vertus qu'on peut attribuer, hélas, à des formes religieuses tirées même de la parole, que ce soit le baptême, la scène, l'onction d'huile, que sais-je, et bien d'autres qui ne sont même pas scripturaires. On fait fond sur cela, mais on ne peut pas aller directement à Dieu, directement au Seigneur, à celui qui peut tout, qui a la toute puissance et qui répond toujours à la foi. Mais il faut avoir la foi pour cela. Et c'est ce qui manque. Et c'est ce qui manque lorsqu'on s'en tourne vers les formes, lorsqu'on s'adresse ainsi à tout ce qui a été institué et organisé par l'homme, même si cela paraît être tiré de la parole de Dieu selon les apparences. En réalité, les formes ne sont rien. Ce qui compte, c'est la réalité, c'est la foi, et c'est la puissance de Dieu qui ne répond qu'à la foi.
J'aimerais attirer l'attention, en enchaînant avec ce qui vient de nous être dit, sur trois points. Nous chantons dans le Cantique 116, « Toi donc, mon âme, au fort de la souffrance, attends de Dieu la grâce, notre cantique et le secours. »
Romains 4, verset 18. Qui, contre espérance, crut avec espérance. Les contradictions de la foi. La foi brille lorsque tout lui est contraire. Tout était contraire à cette femme. Tout était contraire à Abraham. Sur le plan de la chair, sur le plan de la nature, je ne dis pas de la chair coupable, mais la chair et le sang, mais la nature. Et c'est justement ce que l'expérience, la chose que le Seigneur veut faire apprendre à ces personnes de foi, fils et filles d'Abraham, c'est que sur le terrain, le fondement de la nature, le grand mot est marqué en lettres indélébiles, la mort. Chapitre 22 de la Genèse commence par ces mots. Et après ces choses, Dieu éprouva Abraham. Il y avait eu toute une montée morale et spirituelle dans les voies de Dieu à l'égard de son serviteur pour l'amener là, dans la communion la plus intime avec Dieu, peut-être qu'aucun homme n'a connu sous cet aspect-là, sur la montagne de Morija, Dieu va dire en quelque sorte à Abraham, « Abraham, toi, mon ami, témoignage de la parole, Abraham, mon ami, comme un vrai ami pour moi, tu vas entrer dans ce qui sera un jour l'épreuve suprême pour moi, c'est de frapper mon fils et de le donner pour le salut et la rédemption de l'homme pécheur. Qu'aurait-il ressorti de l'épreuve d'un Lot ? Ce n'est pas un Lot que Dieu éprouve. Ah, chers amis, le sens de l'épreuve, pour le chrétien, pour le croyant, il est important que nous la saisissions dans toute sa portée. Bien souvent, nous pensons, et les amis de Job pensaient que Dieu éprouvait Job parce que, en discipline, il marchait mal. Et ce sont ces reproches amers qui vont faire sortir Job et manifester l'appréciation qu'il avait à l'égard de lui-même. Je ne lâcherai pas ma perfection. Dieu avait reconnu cette perfection. Mais le sens de l'épreuve, il est là. C'est qu'il y a un combat dans le ciel et entre un combat entre le Seigneur et Satan. Et Job ne le sait pas. Mais il est soutenu par la grâce de Dieu à manifester, à donner, si je puis dire, à justifier Dieu dans ce témoignage qu'il avait donné à l'égard de son serviteur. Son serviteur Job. Témoignage rendu dans le ciel. Et si le Seigneur nous permet que nous passions par l'épreuve sous une forme ou sous une autre, soit dans nos corps, soit dans nos bien-aimés, soit dans le deuil, la maladie, ou dans d'autres circonstances, et nous amène aux pieds du trône de la grâce dans la prière et la supplication, c'est bien parce que justement il veut mettre en évidence, non seulement devant les hommes, mais nous le voyons, dans le cas de Job, devant les êtres célestes, terrestres et infernaux, si nous pouvons reprendre les expressions de Philippiens 2, manifester ce que par sa grâce, et par sa grâce seule, il produit dans le cœur de ceux qui ont placé leur confiance en lui. Premier point. Un deuxième point, je ne te laisserai point. Il lui faut l'homme de Dieu, celui dans lequel elle discerne et elle saisit la présence et l'activité de la grâce au milieu de la ruine du peuple. Je ne te laisserai point. C'est le langage d'une Ruth. C'est aussi le langage d'un Moïse. C'est le deuxième point que nous voulions soulever. C'est justement quand tout va mal que la foi brille, en disant à Dieu, au Seigneur, quand toutes les ressources humaines ont été manifestées comme insuffisantes, alors la foi dit, il me faut Dieu, il me faut le Seigneur, et il n'y a que lui qui peut satisfaire mon cœur. Nous pensons
à cette parole de Moïse au chapitre 33, Exode 33, verset 13. « Maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître, je te prie, ton chemin, et je connaîtrai, afin que je trouve grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Et l'Éternel dit, « Ma face ira, et je te donnerai du repos. » Cela devrait suffire à Moïse. Non, la foi veut beaucoup plus que cela. Elle s'affirme. Ce n'est pas du doute. Elle s'affirme. Elle insiste. Moïse lui dit, « Si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici. Car à quoi connaîtrai-je que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et mon peuple ? Ne sera-ce pas en ce que tu marcheras avec nous ? Toi et toi seul est suffisant pour toutes les circonstances du désert et pour toutes les épreuves de la foi. » C'est aussi, dans un certain sens, ce que nous trouvons en Jacob, d'ailleurs. Que de choses à relever en faiblesse et en insuffisance en Jacob. Mais il lutta et il supplia, et il fut appelé vainqueur de Dieu, prince de Dieu. Nous citons Osée, n'est-ce pas ? Un troisième point, et peut-être c'est celui qui va le plus dans ceci au fond de nos cœurs et les éprouve le plus. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas ta servante. N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ? C'est là la grande question de la foi. Seigneur, tu ne peux pas être autrement que ce que tu as dit. Tes promesses sont là. Je ne te l'ai pas demandé, mais tu connaissais le fond de mon cœur et le besoin de mon âme. Tu y as répondu. Eh bien, si tu l'as fait, si tu m'as donné cet enfant, eh bien, ce n'est pas pour me le reprendre maintenant. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que celle de l'or qui périt, soit été rappelée ce matin, soit tournée à louange, à honneur et à gloire. L'épreuve de Job, elle a tourné à gloire pour Dieu. L'épreuve d'Abraham, elle a tourné à gloire pour Dieu. L'épreuve de cette femme, elle a tourné à gloire pour Dieu. Et nous pensons à la Syrophénicienne. Quand le Seigneur lui répond, qu'il te soit fait selon ta parole. Ce n'est plus même la parole de Dieu, du Seigneur, qui va réaliser, manifester la puissance de Dieu et réaliser le miracle. C'est la parole de la foi. Cette foi que Adolphe Monod appelait, dans un de ses sermons, la foi toute puissante. Pourquoi ? Parce qu'elle fait mettre en œuvre la puissance de Dieu. Eh bien, ne me trompe pas. Tu ne m'as pas donné cet enfant pour m'amener maintenant au désespoir et au doute quant à toi. Voilà, au fond, ce que cette femme veut dire. Et nous pensons, encore juste cette citation, en Jérémie 15, cette parole d'un serviteur qui a été, plus que tout autre, éprouvé dans le ministère et du témoignage pour Dieu. Jérémie 15, verset 18. Me serais-tu bien comme une source qui trompe ? Jérémie dit à Dieu, comme la tsunamite, est-ce que tu peux tromper les tiens, tromper la foi des tiens ? Est-ce possible ? La foi dit non, ce n'est pas possible. Tout est contre moi. Tu m'as repris mon enfant, mais ce n'est pas pour me tromper que tu agis de cette manière. Tu as quelque chose de plus grand que cela. Me serais-tu comme une source qui trompe ? Au chapitre 17, il dit, « Ne me sois point une épouvante. » La foi s'appuie sur les promesses de Dieu. envers et contre tout. Nous chantons quelquefois, Jésus a parlé, je veux croire. Et il a été rappelé ce matin le passage du psaume 105 relatif à Joseph, la parole de l'Éternel l'éprouva. Dans sa jeunesse, jeune homme, tout au début de sa vie, Joseph avait eu une vision. La parole de l'Éternel lui avait fait voir l'avenir et la gloire qui serait la sienne. Et puis, quelles ont été la suite, les événements qui ont suivi cette vision? C'était exactement tout le contraire de ce que Joseph avait discerné selon la parole de l'Éternel. Elle l'éprouve, et elle l'éprouve jusqu'au fond, et elle l'éprouve jusqu'au fond de la prison, lorsque tout le monde a oublié Joseph. Eh bien, Dieu éprouve la foi. Il donne une promesse. Et puis ensuite, il éprouve la foi pour voir, comme celle de la femme syrophénicienne, jusqu'où la foi tiendra, et si elle le glorifiera envers et contre tout, quelles que soient les circonstances. Eh bien, quelle est la réponse de Dieu à Jérémie au chapitre 15 ? Je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Voilà la réponse de Dieu. Me serais-tu comme une source qui trompe ? Je t'ai dit, ne me trompe point. Eh bien, pensons, nous pensons beaucoup à ceux qui prient jour et nuit pour un être cher, qui s'est engagé dans un chemin d'éloignement. Que le Seigneur nous donne d'être participants des exercices de cœur du Père qui, de loin, surveillait l'horizon et attendait le retour de son fils bien-aimé. Mon fils était mort. Et maintenant, il est vivant. Que nous soyons de ceux qui attendent, mais qui attendent au pied du Seigneur, au pied d'une trône de la grâce, dans la supplication et dans l'assurance que puisqu'il a donné cet enfant, il le rendra au travers de la mort, étant plus puissant que celui qui a cherché à l'entraîner loin du chemin de la bénédiction.
Chantons les strophes de cantique auxquelles notre frère a fait allusion.
voudrais ajouter quelque chose au sujet du travail que Dieu opère dans une âme. La parole de Dieu nous rappelle que quand il commence une œuvre, il l'achève. C'est la prérogative de Dieu d'achever. Le Seigneur peut dire au chapitre 17, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et là, nous voyons que le travail qui a été commencé chez cette personne, dont le nom n'est pas donné, mais Dieu veut l'achever. Et la parole de Dieu nous rappelle qu'il se sert des événements pour que ce travail se poursuive en bien chez ceux qui passent par l'épreuve. Je lirai à cet égard un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. Au chapitre 7, nous avons ce passage très important. Il est dit, autrefois, il y avait plusieurs sacrificateurs, étant donné l'imperfection de ceux qui se succédaient, mais maintenant, nous avons une sacrificateur qui demeure éternellement en Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Et alors, la parole vient nous dire, au verset 25 du chapitre 7, de là vient qu'il peut sauver entièrement, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous avons donc là, en réponse aux prières des saints, en réponse aussi à l'excellence du sacrifice du Seigneur, il peut sauver jusqu'à l'achèvement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Un autre passage extrêmement important, c'est celui que nous trouvons dans l'Épître de Pierre. Première Épître de Pierre, au chapitre 1er de la première, il est dit, verset 6, « Étant affligé maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ. » Eh bien, dans ces passages, nous apprenons que Dieu termine ce qu'il a commencé. Aucun homme n'a jamais pu achever ce qui lui avait été confié. Aucun, sauf le Seigneur Jésus lui-même, qui a été parfait et qui a pu dire, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, dans le chapitre de l'Évangile de Jean, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Nous avons donc le Seigneur qui a répondu parfaitement à toutes les exigences de la sainteté, obéissant jusqu'à la mort même de la croix, à toutes les exigences qu'exigeait la mort expiatoire de notre Sauveur pour non seulement nous sauver, mais pour établir la gloire de son Père à toujours. Établir la gloire de son Dieu et Père. L'épreuve de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or qui périt, qui toutefois est éprouvée par le feu, soit tournée à louange et à gloire et à honneur à la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez. Voilà donc l'intention divine qui nous est rapporté dans ce récit, sans nous écarter dans beaucoup de passages qui sont toujours précieux pour nous, mais en restant dans le sujet, la mort de cet enfant avait dans la pensée de Dieu d'amener à la perfection cette foi de cette femme qui a ajouté la foi à la parole de l'homme de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu nous enseigne que c'est par la foi que nous pouvons glorifier Dieu, et c'est pour nous très très précieux de savoir que cette épreuve de notre foi soit trouvée tournée à gloire, à honneur et à louange à la révélation de Jésus-Christ, quoi que vous n'ayez pas vu, vous aimez. Combien cela est précieux pour chacun de nous tous ici, de savoir que la foi de cette femme n'est pas restée en route, en quelque sorte, mais que Dieu a voulu l'amener à une foi plus profonde et compter sur Dieu non seulement pour la résurrection de son Fils, mais enfin pour faire des progrès dans la connaissance de ce Dieu révélé dans la personne du prophète.
J'aimerais encore lire un passage bien connu. Premier livre de Samuel, premier chapitre, verset 10. Anne avait de l'amertume dans l'âme, et elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Et elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si tu veux regarder à l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et il arriva que, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur, ses lèvres seulement remuaient, mais elle n'entendait pas sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Ôte ton vin d'avec toi. » Anne répondit et dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui a l'esprit accablé. » Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial, car c'est dans la grandeur de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. Et il y répondit et dit, va en paix. Et je rappellerai encore, il a été fait allusion à la femme cananéenne en Matthieu 15, quelques-uns des versets de ce paragraphe. Verset 22. Une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s'écria, lui disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. » Et il ne lui répondit mot. Et ses disciples s'approchant le prièrent, disant, « Renvoie-la, car elle crie après nous. » Mais lui répondant, dit, « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et elle vint et lui rendit hommage, disant, « Seigneur, assiste-moi. » Et lui répondant, dit, « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Et elle dit, « Oui, Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répondant, lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. Nous avons donc bien retenu que Dieu éprouve la foi. L'homme n'éprouve pas n'importe quel métal, il éprouve les métaux précieux. Et Dieu éprouve la foi parce qu'elle est plus précieuse, comme nous venons d'entendre, que l'or qui périt. Mais quelle épreuve pour Anne que celle qu'elle a connue. Nous avons vu que Élisée n'a peut-être pas compris. Il envoie Gehazi, il envoie le bâton. Et en réalité, c'est lui qui devait aller. Ici, c'est autre chose, c'est bien plus grave. Ce sacrificateur, au lieu de comprendre qu'il avait affaire à quelqu'un qui avait de l'amertume dans l'âme, une souffrance, on peut dire, inexprimable, et qui durait depuis longtemps, il lui reproche d'être ivre. Voilà comment un serviteur pourrait amener une âme au désespoir. Si Dieu n'avait pas soutenu cette âme, où serait-elle ? Mais la foi a triomphé dans cette circonstance. Je ne suis pas ivre, je ne suis pas une femme de Bélial. Et quelle réponse? La réponse à ces prières, la réponse à cette foi, c'est un Samuel. Quel honneur pour elle. Combien Dieu récompense la foi. Et dans la femme cananéenne, c'est la même chose. Ce n'est pas par maladresse que le Seigneur, pas utile de dire cela, le Seigneur éprouve cette foi, et cette foi triomphe. Il semble qu'il n'a aucune sympathie pour cette demande. Les disciples eux-mêmes veulent la renvoyer. Le Seigneur lui dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Autant de barrages, semble-t-il. Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. Mais alors quand cette femme, on peut dire une sainte femme, elle prend sa place, et c'est ce que Dieu demande à chacun. On a parlé de Job tout à l'heure, eh bien il faut bien arriver aussi un jour ou l'autre à cette leçon. J'ai horreur de moi. Je me repens dans la poussière et dans la cendre. Je ne suis pas meilleur que mes pères. La parole d'Élie. Cette femme est tout à fait d'accord. Même les chiens mangent des miettes. Je ne suis qu'un chien. Mais ta grâce ne peut pas me rejeter. Et c'est ainsi qu'elle est là pour nous. Un encouragement précieux, tout comme l'encouragement de cette femme tsunamite.
Il est à souligner ce que cette tsunamite dit. Je courrai jusqu'à l'homme de Dieu. La tsunamite, que par erreur on appelle aussi la tsunamite du Cantique des Cantiques, mais c'est une erreur de langage, là c'est la tsunamite, elle dit « tire-moi ». Et nous courons après toi. Donc il y a dans le cœur de cette femme, de Sunem, un objet. Et elle court. Et de plus, elle dit au jeune homme qu'elle a demandé à son mari de lui envoyer, ne m'arrête pas dans la course. Pourtant, l'enfant qu'elle vient de laisser sur le lit du prophète, c'est l'enfant chéri de son cœur. Ils vont dire quelques mots aux mamans. Il vient d'être parlé d'Anne. Voici une autre maman. Chère sœur, il y en a beaucoup à qui le Seigneur a donné le service de mère dans l'assemblée. Et nous disons que dans les temps difficiles, l'assemblée a besoin de mère. Dans le livre des juges, où il est aussi parlé de la tribu d'Issachar et de ce qu'elle a fait au temps de Déborah, il y a une mère dans le livre des juges. Et là encore, c'est une femme qui s'efface, qui chante un cantique. Et ici, cette maman, elle a pris sur ses genoux son jeune garçon jusqu'à midi. Au fond, elle a réalisé ce que l'Éternel réalise et réalisera pour son peuple, et qu'il est dit dans le prophète Ésaïe au chapitre 66, « Et vous têterez, verset 12, et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Plus tard, l'apôtre Paul, parlant des soins que Dieu avait accordé à son peuple à travers le désert, il dira dans le livre des Actes au chapitre 13, et il prit soin d'eux dans le désert, comme une mère, environ 40 ans. Si Dieu a donné à l'homme une aide qui lui corresponde, il a donné à nos enfants une mère. Et Anne a été une femme de prière. Son fils a été un homme de prière pour Israël. Et si cette mère, elle porte jusqu'à midi un enfant malade sur ses genoux. N'oublions pas, chère maman, que nos enfants ont besoin de vos genoux, ont besoin de vos caresses. Ce n'est pas quelque chose que Dieu repousse cela. On apprend beaucoup sur les genoux d'une mère. Et cet enfant, il est mort sur les genoux de sa mère. dans un moment de grand calme, de grande douceur, de grande bonté. Cette femme, elle connaît la grâce et elle donne la grâce. Est-ce qu'il nous arrive de prendre le temps de porter nos enfants sur nos genoux pendant peut-être un long moment si cela est nécessaire? Est-ce que nos enfants entendent encore le doux son d'un cantique en étant sur nos genoux? Et puis l'enfant meurt. Les soins de cette mère n'ont pas manqué. Et puis que fait-elle? Elle met l'enfant sur le lit du prophète, elle court vers l'homme de Dieu. Il a été parlé de Géasi. Élisée lui a dit, cours vers cette femme. Il est couru. Mais comme notre frère l'a rappelé tantôt, Géasi avait autre chose dans son cœur. Et après la guérison de Naaman, il a couru après Naaman. Pourquoi faire? Eh bien, mon maître a épargné Naaman. Mais moi, je vais lui demander quelque chose. Et voilà ce qu'il y avait dans le cœur de Géasi. C'est que, tout en ayant le bâton d'Élisée, il était loin de son cœur. Et nous pouvons, nous disons pas cela avec mépris, peut-être avoir le bâton de nos devanciers, en parler beaucoup, mais ne pas avoir de cœur pour le Seigneur. Nos conducteurs ont été caractérisés par ceci, et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous demande de nous souvenir d'eux. C'est qu'ils nous ont annoncé la parole de Dieu. Notre frère M. Rossel l'a assez rappelé dans les réunions. Ce qui caractérise un conducteur, il annonce la parole de Dieu. Ce qui caractérisait Élisée, c'est qu'il annonçait à cette femme la parole de Dieu. Et puis le résultat, c'est que cette femme, eh bien, elle a pris son enfant sur ses genoux, et le temps voulu, elle court chercher Élisée. Ne m'arrête pas dans la course. Est-ce que nous ne devons pas dire aussi, bien-aimés, après avoir dispensé à ceux que le Seigneur nous a confiés les soins qui leur sont nécessaires, du matin jusqu'à midi, eh bien, courir vers Jésus, ne pas nous laisser arrêter dans la course. Le Seigneur peut mettre à notre disposition des moyens, une ânesse, un jeune homme, mais nous sommes maîtres de ces choses. Ne m'arrête pas, à moins que je ne te le dise. Ne pas se laisser arrêter pour courir. Vers quoi courons-nous? Question précieuse. Et puis elle trouve un homme qui le comprend. Ces femmes dont on a parlé n'ont pas toujours trouvé la compréhension. J'aime encore rappeler le cas de Marie, assise aux pieds de Jésus, qui a écouté sa parole, qui a appris à être dans l'adoration, dans l'intelligence de l'adoration, au moment qui convient. On lui fit donc là un souper. Celui qui n'avait pas un lieu pour reposer sa tête, on lui fait là un souper. Il est l'homme central de la louange. Que va-t-elle entendre, cette femme? Des reproches de la part des disciples. Mais l'appréciation du Seigneur. Que nous soyons aussi gardés, bien-aimés, de ne pas reprocher à nos frères et à nos sœurs ce que le Seigneur approuve. D'un autre côté, ne nous laissons pas arrêter quand nous avons la pensée du Seigneur, non pas un entêtement, mais quand nous avons la pensée du Seigneur, nous aurons aussi son approbation. Et cela sera d'une grande douceur pour notre cœur. Le bâton de Géasi n'a été rien pour cette femme. Mais, comme notre frère l'a dit tantôt, avoir Élisée qui la suit jusque dans cette maison, qui a accompli son besoin, elle n'a pas couru en vain. Souvenons-nous qu'il y a 25 kilomètres à peu près entre Sunem et le mont Carmel. Et au pas d'une ânesse, ça fait à peu près 4 à 5 heures de marche. Il est midi quand cette femme dépose son enfant sur le lit du prophète. Il est à peu près 5 heures du soir quand elle arrive auprès d'Élisée. Il y a là une volonté de venir vers l'homme de Dieu. La fatigue n'a pas arrêté cette mère. Et puis elle va faire le chemin du retour de nouveau à peu près 4-5 heures. C'est donc tard dans la journée que Élisée arrive. Et il entre dans la chambre, seul avec l'enfant. Est-ce que cette femme dit à Élisée, « Mais écoute, c'est mon enfant, ce n'est pas le tien, je veux entrer avec toi. » Non, elle a couru vers Élisée, elle a tout remis à Élisée, elle laisse faire Élisée, et puis cet humble serviteur n'a plus qu'une chose à lui dire. « Prends ton fils, il vit. »
Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, disait Paul, mais en celui qui ressuscite les morts. La pieuse Tsunamite a fait l'expérience de la puissance divine. C'est une des sept résurrections qui nous sont rapportées dans l'Écriture. Fils de la veuve de Sarepta, le fils, la pieuse Tsunamite, ensuite l'homme mort qui est jeté dans le sépulcre et qui va toucher les os du prophète Élisée et qui revient à la vie, les trois résurrections qui nous sont données dans l'Ancien Testament. Nous en avons trois dans l'Évangile. Lazare de Béthanie, la fille de Jairus et le fils de la veuve de Naïm. Nous avons des parallèles, on l'a souligné, la maison de Béthanie a fait l'expérience de la puissance divine. Dans l'Évangile, nous rencontrons les larmes, ce soir, ce cortège qui suivait ce fils unique. Une foule considérable était avec la veuve de Naïm. Et voilà que le Seigneur peut dire, lui seul, ne pleure pas, ne pleure pas. Celui qui a pleuré au tombeau de Lazare nous dit, dans les détresses que nous sommes appelés à traverser, ne pleure pas. Ah, il est celui qui est vivant à jamais. Celui qui a été mort, mais qui est maintenant élevé, glorifié à la droite de Dieu, celui qui tient les clés de la mort et du Hadès. Nous avons vu la pieuse Tsunamite, il n'y a pas de larmes. Sa foi s'élève à la hauteur de ce que Dieu veut. Elle dit tout va bien. C'est ce que nous trouvons dans l'Épître aux Philippiens au sujet de Paul. Est-ce que les circonstances étaient favorables pour lui lorsqu'il dit à ses frères « Réjouissez-vous ». Savons bien que non, tel prisonnier du Seigneur. Sommes appelés à traverser des peines, des épreuves, des détresses. Qui n'en connaît pas? Qui n'en a pas connu? Eh bien, Seigneur Jésus n'est pas comme la prophète Élisée qui peut dire au sujet de la Tsunamite, son âme est dans l'amertume. Elle avait saisi les chevilles du prophète. Son âme est dans l'amertume et l'Éternel ne me l'a pas déclaré. Ah, dans toutes nos détresses, il entre en détresse et l'ange de sa face les a sauvés, est-il dit dans Ésaïe 63. Nous avons aussi cette pieuse Tsunamite qui reçoit, qui croit la parole du prophète, et qui reçoit un fils. Il y a de la joie dans les familles chrétiennes à la naissance d'un enfant. Nous le comprenons, Mais ce qui est une plus grande joie pour un père, une mère chrétienne, c'est la nouvelle naissance de cet enfant. Nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. La nouvelle naissance, mes amis, est indispensable, c'est vital, c'est capital. Nous le répétons pour les jeunes. Est-ce que nous sommes tous passés de la mort à la vie? Eh bien, si la réponse aux prières des parents peut tarder quelquefois, on parlait du Père, fils prodigue qui attendait sur le chemin, qui guettait la silhouette qui s'avançait sur le chemin
vers la maison de son père, qui n'aurait jamais dû quitter. Eh bien, mes amis, ayons confiance en celui qui a fait les promesses, elles sont des grandes et précieuses promesses. Et
il dit, tu seras sauvé, toi et ta maison. Il est celui qui ne peut pas ne pas répondre aux prières que nous faisons monter vers lui au sujet de ceux qui nous sont chers. Nous avons parlé des sept résurrections, nous en avons oublié une que nous trouvons dans le livre des Actes, c'est Pierre qui ressuscite Dorcas. Là aussi, il y avait eu des pleurs, des larmes. Mais ensuite, il y a une grande joie. Voyons cette puissance s'affirmer, puissance divine, puissance qui va s'affirmer tout à l'heure, mes amis, lorsque va retentir l'appel de la trompette, lorsque tous ceux qui se sont endormis en Jésus seront ressuscités ou transmués. Est-ce que nous sommes tous de ceux-là, mes amis? Je me permets de poser la question aux jeunes en particulier. Est-ce que nous appartenons à cette première résurrection dont il est parlé, cette résurrection de vie? Ou alors, mes amis, et combien c'est terrible d'avoir à comparaître devant le grand trône blanc pour rendre compte de nos péchés, pour être jeté loin de la face de Dieu, une séparation définitive, éternelle. Eh bien, mes amis, la possibilité vous est offerte à ceux qui ne seraient pas encore sûrs de leur salut. Vous êtes offerte aujourd'hui à répondre à l'appel de Jésus qui vous dit « Venez à moi, tournez-vous vers moi et soyez sauvés ».
Peut-être devons-nous dire un mot aussi sur le chapitre 8 et sur le chapitre 5, si c'est 7, très rapidement. Dans le chapitre 5, nous avons donc, suite à la guérison de Naaman, le caractère bien triste de Guéhazi qui va se manifester. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, nous le constatons dans ce Guéhazi. Peut-être Déma, celui, est le Guéhazi du Nouveau Testament. Puis dans les chapitres 6 et 7, nous voyons la grâce de Dieu qui se manifeste encore dans ce siège de Samarie. Une merveilleuse grâce se manifeste, mais que voyons-nous? Aucun résultat chez Joram, aucun résultat chez le peuple, aucun signe de retour à Dieu. Alors, dans le chapitre 8, Dieu va parler, et d'une manière beaucoup plus sévère. C'est un jugement direct de Dieu. Cette année, de famine qui viennent. Dieu s'occupe toujours de son peuple. Il n'abandonne pas son peuple, mais il agit en châtiment cette fois et d'une manière combien sévère. Alors la Tsunamite avait pourvu aux besoins du prophète dans les jours de sa prospérité. Maintenant le prophète qui connaît la pensée de Dieu va l'avertir. Il faudra fuir ce pays de Canaan pendant 7 ans. Le Seigneur l'Éternel, nous le savons, ne fait rien sans en avertir au préalable ses serviteurs, les prophètes. Élisée est donc celui qui vit près de Dieu, qui connaît la pensée de Dieu et qui la communique. Heureuse position. Quant à la Tsunamite elle-même, ses circonstances vont beaucoup changer. La voici qui quitte ce pays où elle avait beaucoup prospéré. C'était une femme riche. Tout laisse à penser désormais qu'elle est veuve, car le prophète lui dit « Toi et ta maison ». Il n'aurait pas pu parler ainsi si son mari avait été encore vivant. C'est donc une veuve qui quitte le pays. Elle va donc être absente 7 ans. Ces circonstances changent, nos circonstances à nous aussi changent. Des temps de prospérité et puis des temps de larmes, des temps d'épreuves. Mais quel bonheur de penser que notre Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Les promesses de Dieu sont là. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, et tant d'autres aussi que nous pourrions citer. Nous pouvons aussi nous demander s'il ne serait pas bon, arrivé à ce stade, de dire mais brièvement un mot sur l'aspect prophétique que nous ouvre ce passage. Mais très brièvement, il vaut peut-être mieux être très pratique dans une journée comme celle-ci. Nous voyons donc que cette femme a saisi les pieds d'Élisée, ce qui semble nous la désigner comme un résidu. En effet, dans Matthieu 28, nous voyons ce groupe de pieuses femmes qui saisit également les pieds du Seigneur, et nous avons là aussi une figure du résidu. Ne pouvons-nous pas penser que cette Tsunamite fait particulièrement penser au résidu de Judée? Nous ne disons pas de Judas, mais le résidu de Judée. En effet, dans Luc chapitre 21, verset 21, nous voyons que le Seigneur Jésus dit de fuir et la Judée et Jérusalem. Oui, c'est Luc 21 et verset 21. Il faut fuir la Judée et Jérusalem, et ces choses sont accomplies. Nous connaissons l'histoire, ce que en 70 Titus a fait. Alors, dans cette circonstance-là, il fallait fuir et la Judée et Jérusalem. Par contre, si nous regardons à Matthieu 24, où il est question cette fois de la 70e semaine de Daniel, nous voyons bien que le résidu devra fuir seulement la Judée. Matthieu 24 et verset 16. Il n'est pas question de Jérusalem. Pourquoi? Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. La raison, nous l'avons sans doute vue ce matin, quand nous avons cité Sophonie chapitre 3, verset 12. Nous voyons qu'en effet, dans ces temps sombres de la dernière demi-semaine de Daniel, il y aura un résidu et qui restera, qui sera affligé, qui souffrira dans Jérusalem, mais qui se confiera dans l'Éternel. C'est pourquoi Matthieu 24, il n'est question que de la Judée. Il faudra fuir la Judée. Et cette tsunamite semble être l'illustration de cette fuite du résidu. Et puis ensuite, effectivement, ils retrouveront leur héritage. Les 10 tribus elles-mêmes reviendront, ainsi que nous le dit le prophète Ézéchiel, chapitre 20. Eux, alors, seront châtiés en chemin. Et puis, le peuple sera parfaitement réunifié, les 2 tribus et les 10 tribus, comme l'annonce aussi Ézéchiel, et le millénium commencera. Et est-ce que le fait même que le prophète se tient à 2 reprises sur la montagne du Carmel, qui, comme on le sait, est un champ fertile, et le Carmel nous parle de ce millénium, de ce temps du règne? C'est le chapitre 32 du livre du prophète Ésaïe, chapitre 32 d'Ésaïe, versets 15 et 16. Alors il nous est bien dit que le désert va devenir un champ fertile, et la note nous dit Carmel, et puis verset 16, et la droiture demeurera dans le désert, et la justice habitera dans le champ fertile. Alors le peuple dans sa totalité est restauré. On peut dire l'Éternel est là, ce sont les derniers mots du livre du prophète Ézéchiel. Les bénédictions millénaires sont alors introduites. C'est peut-être un des aspects prophétiques qui se dégagent de nos textes.
L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Voilà une femme qui est dans l'épreuve, qui est dans la difficulté, qui n'en a pas parlé autour d'elle, mais qui s'est tournée, malgré les kilomètres, comme on l'a dit, qui s'est tournée vers celui qui seul pouvait apporter une réponse à son besoin. Alors la question se pose, on a évoqué ce matin un peu des difficultés. Nous avons aussi chacun de nous des épreuves. Est-ce que nous savons nous tourner individuellement et collectivement vers celui qui peut répondre à ses besoins? On a parlé de Géasi avec son bâton, et on a vu que cette femme n'a pas voulu s'en remettre à son serviteur, mais elle s'en est remise directement au maître. Eh bien, ayons la même attitude. Autre chose, lorsque Élisée et cette femme arrivent à la maison, on voit qu'Élisée rentre dans la chambre et la femme reste à l'extérieur. Cela nous apprend que ce qu'elle pouvait faire, ce qui était dans ses moyens, elle l'a fait. Et après, elle s'en remet à la puissance, à la grâce de Dieu qui agira dans le secret. Et bien que nous aussi nous ayons cette confiance et cette assurance, faisons ce que le Seigneur nous demande et puis laissons-le agir.
À dire qu'après le chapitre 4, il y a une série de scènes de famine. Il y a déjà une famine parmi les fils des prophètes. Ensuite, il y a une famine dans la ville, parce que la ville est assiégée. Puis ensuite, il y a une famine de 7 ans. Cette famine de 7 ans qui est le gouvernement, si on peut dire, final de Dieu, concernant Joram sur un pays. Ce roi avait régné pendant 12 ans. Il avait été averti. Il avait été averti, il avait été en contact au moins 4 fois avec le prophète, Élisée lui-même. On le voit une première fois au chapitre 3, avec quand ils veulent Moab s'est rebellé avec deux autres rois, le roi Josaphat et le roi d'Édom. Son incrédulité, l'incrédulité de Joram d'ailleurs, apparaît. Il dit l'Éternel a emmené ses rois pour, et ses armées pour les faire mourir parce qu'il n'y a pas d'eau. Un miracle qui est fait selon la parole d'Élisée. Élisée annonce un miracle. Premier contact direct avec le prophète. C'était donc pendant les premières années de son règne. Deuxième chose, ensuite, un peu plus tard, sauf erreur, c'est Naaman. Naaman vient, la petite fille, elle sait qu'il y a un prophète en Israël. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si le maître connaissait le prophète qui est à Samarie. Il était donc à Samarie, tout près du roi, puisque c'était la capitale. Le roi de Syrie envoie une lettre au roi Joram, puis le roi Joram déchire ses vêtements et dit, « Mais de quoi est-ce qu'il prend ? Mais je ne suis pas Dieu. » Mais et il les renvoie, il ne peut rien faire. Il dit, « Cet homme cherche une occasion pour me faire du mal. » Mais il a un contact avec Élisée. Élisée lui envoie un jeune homme et lui dit, « Envoie-moi donc celui-là pour que on sache qu'il y a un prophète en Israël. Pouvons être bien sûrs que Joram, d'une manière ou d'une autre, a su qu'il y avait de la puissance pour sauver, pour guérir de la lèpre, que cette puissance existait et que ce miracle s'était produit. » Troisième miracle, c'est quand le roi de Syrie lui-même qui veut prendre Élisée. Parce qu'Élisée fait passer des petits messages au roi Joram en lui disant, regarde, le roi de Syrie va venir là. Donc il écoute bien, d'ailleurs, il n'y va pas là. Il écoute, certainement pas avec foi, mais il dit, peut-être, il dit, autant l'écouter si cela peut m'éviter quelque chose. Et cela marche. Et il ne s'est pas fait une fois, c'est fait plusieurs fois, il l'a dit, jusqu'à ce que, au moment où même à Damas, les Syriens, incrédules, disent au roi de Syrie, mais tu sais donc pas qu'il y a un prophète là-bas, mais tout ce que tu dis dans ta chambre, il le répète au roi d'Israël. Et puis, on va le prendre, et puis, nous connaissons cette histoire, il est en dotant, tout le monde est aveuglé, il ouvre les yeux de son jeune homme, et le jeune homme, il voit toutes les armées de l'Éternel, les chars de feu et les chevaux de feu. Et puis, il leur dit, je vais vous conduire, vous êtes au mauvais endroit, vous n'êtes pas là, je vais vous conduire chez cet homme. Il les prend et les emmène dans Samarie. Et puis il leur ouvre les yeux, les voilà prisonniers dans Samarie. Et le roi leur dit, qu'est-ce que je vais faire, père, est-ce que je vais frapper, qu'est-ce que je vais faire? C'est là qu'il l'appelle père. Donc, il y avait quand même des relations d'une certaine, je ne vais pas dire intimité, mais il connaissait bien Élisée, il ne faut pas croire qu'il ne le connaissait pas. Puis il lui dit, mais si tu les avais pris prisonniers dans le champ de bataille, qu'est-ce que tu leur ferais? Tu les aurais tués? Non, allez, tu vas leur préparer une table et tu vas les faire manger. Troisième fois. Quatrième fois, c'est dans Samarie, quand le roi lui-même il vient, le roi Ben-Hadad, et puis il va entourer Samarie. Et il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien. Oh, Élisée, le roi sent bien, le roi d'Israël, que c'est à Élisée, d'une certaine manière, qu'il le doit, parce qu'il sent que c'est un jugement. Il dit, Élisée, sa tête ne va pas rester sur ses épaules. Et on va envoyer pour le chercher. Et il dit à celui qui va venir, va dire à ton maître, au fils de ce meurtrier, va lui dire que va fermer la porte sur lui. Et puis il va dire, demain à 7 heures, eh bien il va y avoir de l'abondance. La grâce qui est là, 4 fois au moins, plus tous les exercices, toutes les choses qui étaient riches. Sur les 12 années de règne, il y a là, enlevons-en 7, de famille, il reste 5. Il a été averti combien de fois ce Joram a été averti. Et quelle intimité extérieure il pouvait même avoir. D'ailleurs, le prophète pouvait dire, tu veux que je demande quelque chose au roi? Je suis bien avec le roi, dit-il à la fin. J'aurais pu lui demander quelque chose. Non, il n'a pas écouté. Alors Dieu va parler autrement. 7 ans de famine. Et alors là, la femme revient. La femme est prévenue. Et vous savez que, on a cité ce passage ce matin, votre épreuve est pour un temps. Le temps est limité. Comme c'est aussi pour l'église de Smyrne, 10 jours. Là, c'est limité. Le résidu, elle sera limitée aussi. Si ce n'aurait pas été à cause des élus, cela n'aurait pas été abrégé. Mais à cause des élus, ce temps est limité. Elle sait 7 ans. Puis quand 7 ans sont terminés, elle ne revient pas. Pourquoi elle ne va pas se préparer Élisée pour réclamer ses biens? On pourrait dire, mais Élisée lui avait proposé une fois, maintenant, pour réclamer ses biens. Elle y avait droit. Elle avait une démarche administrative à faire pour les récupérer. Pourquoi elle ne passe pas par Élisée? C'est que Élisée n'était... Elle avait senti, elle aussi, qu'Élisée, il n'avait plus rien à voir avec le roi. Le temps était fini. Le temps de la grâce était fini. Le temps du gouvernement était passé. Élisée ne parlait plus au roi. Élisée ne l'avertissait plus. Alors elle y va toute seule. Et puis, la providence de Dieu fait que les choses, que Géasi, justement, se trouve là. Et par la providence de Dieu, quand Géasi vient là, on peut dire que c'est le dernier témoignage qu'il reçoit du prophète Élisée. Il le reçoit à travers qui? Le roi. Il le reçoit à travers Géasi. Géasi, que Dieu utilise pour raconter les grandes choses qu'Élisée avait faites, c'est-à-dire, finalement, les grandes choses que Dieu a faites. Il en avait éprouvé un certain nombre, le roi. 4 au moins des miracles, mais il les avait oubliés. Sauf erreur, il y a 14 miracles d'Élisée qui sont rapportés. Il y en a donc encore 10 à raconter. Il a fait 2 fois plus de miracles que qu'Élie. Il a fait. Il y a 2 fois plus qui sont rapportés. Et c'est Géasi qui est utilisé pour le faire. Mais ce qui conduit Géasi, ce sont les circonstances, c'est pas son intimité avec Dieu. Ce qui le conduit, ce sont les circonstances. Qu'est-ce qui peut se passer avec un homme charnel? Élisée cherchait l'intimité avec son Dieu. Géasi cherchait l'intimité avec les grands de ce monde. Eh bien, souvent on dit, oh, mais moi je suis une position dans ce monde, et puis j'ai l'occasion, je peux témoigner. Bien sûr, tu peux témoigner, tu peux te donner l'occasion. C'est comme cet homme qui avait caché, comme Abias, qui avait caché 50 prophètes, mais ce n'est pas ta place. Dieu peut se servir de toi, mais tu n'es pas un compagnon d'armes de Dieu. Tu as un instrument comme pourrait être n'importe quel instrument. Dieu peut servir de n'importe qui, mais il n'est pas dans l'intimité des pensées de Dieu. Et la Tsunamite a bien compris cela. Alors, Joram reçoit un dernier avertissement. « Oh, raconte-moi les grandes choses que le prophète a faites, le Seigneur s'en sert. » Voilà la femme. Elle récupère ses biens, mais le cœur de Joram n'a pas été touché. Le cœur de Joram n'a pas été touché, et le jugement va tomber sur lui. Quant à Géasi, nous ne savons pas ce qui en est de son cœur. Il ne faut pas dire que c'est quelqu'un qui était perdu, mais c'est, comme on l'a dit, certainement, c'est un chrétien mondain. Et il ne marchait pas et il ne pouvait pas agir, il ne pouvait pas servir dans une intimité de cœur et d'esprit avec son maître.
Un mot encore sur cette scène, une courte pensée au sujet de ce début du chapitre 8. Il y a 2 acteurs face à face. Il y a cette femme de foi et il y a ce roi incrédule. Ce roi qui va subir au chapitre 9e son châtiment puisqu'il n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Nous trouvons son terrible sort au verset 24 du chapitre 9. Il reçoit sa sentence. Mais en attendant, Dieu se sert de lui pour répondre à la foi de cette femme. C'est remarquable cela. Dieu se sert de qui il veut, au moment où il veut, de ce roi impie qui aurait dû être le modèle en Israël pour le peuple et qui a été le modèle pour l'iniquité, eh bien, Dieu se sert de lui. Cette femme doit recouvrer ses biens. Elle les avait momentanément perdus. On comprend l'exercice d'une foi pareille lorsqu'elle entend la parole d'Élisée lui dire « Lève-toi et va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras séjourner. » Il fallait partir du pays de la promesse. Auparavant, elle avait pu dire « J'habite au milieu de mon peuple. Dieu m'a placé là. » Elle savait bien que le peuple était infidèle, mais elle savait comment elle pouvait servir Dieu malgré l'infidélité de son peuple. Elle savait que sa place était là, elle en jouissait et elle ne désirait pas une autre part. Et bien maintenant, Élisée va lui dire « il faut partir de là. Ta place, ton héritage, laisse tout cela et va où tu pourras séjourner parce que je frappe ce pays de famine pendant 7 ans. » Voilà la parole de Dieu par la bouche du prophète. Et cette femme obéit, elle ne pose pas de questions, elle ne conteste pas, elle s'incline. Voilà la foi. Il est difficile de comprendre, enfin elle pouvait comprendre que ce peuple méritait ce châtiment en discipline, mais elle ne pouvait pas comprendre que pour cela, et à cause de cela, et à cause de l'infidélité de ce peuple, elle devait partir momentanément et se retirer de son héritage. Eh bien, il peut se produire des situations similaires pour nous aussi. Il y a des choses qui nous est difficile de comprendre. Pourquoi cesser telle activité? Pourquoi partir de tel endroit où il peut y avoir une bénédiction par notre intermédiaire? Que sais-je, des questions qui peuvent se poser lorsque le Seigneur indique qu'il faut aller ici, que tu comprennes ou que tu ne le comprennes pas, c'est mon chemin à moi. Ça n'est pas le tien peut-être, celui que tu choisirais, mais c'est le mien et il faut obéir. Il faut obéir. Et cette femme n'a pas discuté, elle a obéi. Elle a tout laissé. Elle a tout laissé. Et c'était quelque chose pour une femme en Israël qui était devenue chef de maison, n'est-ce pas, d'abandonner momentanément l'héritage de l'Éternel. Et nous comprenons son désir profond et sa rapidité avec laquelle elle a agi pour recouvrer son héritage. C'était la terre de l'Éternel qu'il avait confiée à son peuple Israël. Elle est appelée encore la terre d'Israël, même au début de l'évangile selon Matthieu, alors que cette pauvre Palestine est soumise au joug romain. C'était toujours la terre d'Israël. Joseph a dû partir d'Égypte et puis Dieu lui dit « Reviens dans la terre d'Israël ». Et Joseph est revenu où ? Dans la terre d'Israël. C'était la terre des pères que Dieu avait donnée à Abraham et à sa semence pour toujours. Et il le montrera encore dans un temps futur. Eh bien, c'était son héritage, l'héritage de l'Éternel qu'il lui avait confié, là où était sa maison, là où étaient ses champs. Elle y tenait autant que Naboth, nous pouvons en être certains. Et cette démarche qu'elle peut entreprendre auprès du roi cette fois, alors qu'avant elle n'avait pas besoin du roi, elle était au milieu de son peuple, elle n'avait aucun besoin concernant l'héritage, elle y était. Et bien maintenant, elle a besoin de trouver le roi et elle n'a même plus le secours d'Élisée pour cela, qui s'était proposé lui-même pour s'entremettre auprès du roi. Eh bien, elle prend elle-même cette décision, cette femme. Elle la prend alors qu'il fallait qu'elle se trouve devant un roi qu'elle connaissait comme un roi impie, comme un roi qui ne voulait rien entendre de la parole de l'Éternel. Eh bien, elle a fait ce geste parce que Dieu le lui dictait, parce qu'il était question de l'héritage que Dieu lui avait accordé dans la terre d'Israël. Si nous avions à cœur l'héritage que Dieu nous confie dans l'Assemblée, au milieu de son peuple, si nous avions à cœur ce qu'il nous confie afin de l'administrer, afin de le faire fructifier pour lui, si nous avions à cœur de ne rien lâcher de tout cela, de ne rien compromettre avec des relations autres que celles dans lesquelles Dieu veut nous voir marcher, conserver, eh bien, nous serions une Assemblée prospère, heureuse. Cette femme désirait donc recouvrer son héritage que la discipline de l'Éternel lui avait fait perdre momentanément à cause, non pas de son infidélité à elle, mais de l'infidélité de ceux de son peuple. Elle en subissait le préjudice, mais elle voulait le recouvrer, maintenant que la discipline, semble-t-il, était terminée. Eh bien, elle supplie ce roi. Elle supplie ce roi au moment où précisément Dieu a permis, et cela est une circonstance absolument fortuite, au moment où Dieu permet que ce roi soit entretenu de ce qui s'est passé au sujet de cette femme à laquelle Élisée a rendu son enfant mort. Il y a des choses fortuites dans la parole. Nous savons aussi comment fortuitement le sommeil fuyait les yeux du roi Assuérus et que le livre a été ouvert et qu'il a pu demander qui avait récompensé Mardochée pour ce qu'il avait fait au sujet de ce complot déjoué. C'est des choses que Dieu permet au moment qu'il se propose à lui. Et ce moment était venu précisément où il fallait que ce roi soit entretenu de ces grandes choses qu'Élisée avait faites et de la vie qu'il avait rendue à cet enfant mort. Et nous comprenons la suite. Dieu a incliné le cœur de ce roi. Dieu fait rendre ainsi non seulement l'héritage, mais aussi tout le fruit qu'elle aurait pu en tirer. Ce n'est pas par infidélité qu'elle avait abandonné son héritage. Aussi Dieu lui fait recouvrer non seulement le champ et la maison, mais aussi le fruit. C'est très beau tout cela. C'est beau de voir cette foi récompensée jusqu'à la dernière extrémité du récit. En voyant que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de cette femme de foi, comme elle travaille aussi pour nous si nous aimons Dieu.
Une pensée. Cela peut paraître beaucoup après tout ce que le Seigneur nous a donné dans cette journée. J'aimerais que nous lisions ensemble quelques versets dans le chapitre 26 d'Ésaïe. Chapitre 26 d'Ésaïe. Au verset 11, « Ô Éternel, ta main est élevée, mais ils ne voient point. Mais ils verront ta jalousie pour le peuple et seront honteux. Oui, le feu qui attend tes adversaires les dévorera. Éternel, tu établiras la paix pour nous, car aussi toutes nos œuvres, tu les as opérées pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Par toi seul, nous ferons mention de ton nom. Les morts ne vivront pas, les trépassés ne se relèveront pas, car tu les as visités, tu les as exterminés, tu as détruit toute mémoire d'eux. » Verset 16, « Éternel, dans la détresse, ils t'ont cherché. Ils ont épanché leur prière à voix basse, lorsque tu les as châtiés. » Verset 19, « Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l'aurore, et la terre jettera dehors les trépassés. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Car voici, l'Éternel sort de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre sur eux, et la terre révélera son sang et ne cachera plus ses tués. » L'enseignement de ce chapitre 4 de Deux Rois est avant tout moral. Et nous avons senti nous-mêmes combien peu nous entrons dans les épreuves des bien-aimés du Seigneur. Il y en a tout autour de nous. Et l'heure de la réunion pour ceux qui sont ici, terminés, ils vont se retrouver seuls avec leur épreuve. Et certes, on est souvent seul, on est même toujours seul avec son épreuve. Mais on a Dieu pour soi. C'est ce que la femme de Sunem a réalisé. C'est ce que le résidu fidèle réalisera en un jour où la mort l'atteindra, sinon tous, du moins quelques-uns, et où de la poussière écrasée, éprouvée, ils se tourneront vers Dieu et se lamenteront sur leur Messie comme on se lamente sur un fils unique. C'est le prophète Zacharie, sur un premier-né, je crois, plus exactement. C'était bien un premier-né, celui-ci, le fils de la Tsunamite. Mais est-ce que nous pouvons penser, bien-aimés, à ces portes qui ont été fermées, cette porte d'abord qui a été fermée? Élisée est entrée, on l'a rappelé. Et j'aimerais dire un mot sur ce que le Seigneur Jésus a souffert. Parce que, comme il est dit dans les prophètes, les portes du Shéol se sont fermées sur lui. Il s'est identifié avec nous dans la mort où nous étions pour pouvoir nous donner la vie en puissance de résurrection. Il n'y a pas d'autre vie qui demeure devant Dieu pour l'éternité que la vie de résurrection de notre Seigneur Jésus qui a traversé la mort pour nous. C'est l'enseignement de Romains 6. On a parlé de Romains 4 tout à l'heure et il est heureux peut-être que nous puissions aller jusqu'en Romains 6 pour que, ayant pesé un peu dans notre âme, on ne peut pas y entrer certes, ce que furent les souffrances de notre bien-aimé Sauveur lorsqu'il est entré dans la mort et s'est identifié avec nous dans la mort, hein, il peut ensuite nous amener avec lui sur le terrain de la puissance de la vie pour l'éternité. C'est ce que le résidu devra connaître. Nous avons lu cela dans Ésaïe. Ce sera une terrible épreuve pour lui. Lorsque nous passons par l'épreuve, bien-aimés, il nous semble que c'est quelque chose qui nous atteint nous et pas les autres, mais est-ce que nous en avons pas tous besoin pour nous rapprocher du Seigneur, pour que lui devienne notre vraie ressource, notre seule ressource, celui duquel nous apprenons quand la porte s'ouvre à nouveau. Voici, prends ton fils. Et alors, bien-aimé, est-ce que il n'y a pas aussi quelque chose pour nous dans l'héritage? J'aimerais souligner que l'héritage béni de la vérité scripturaire nous a été recouvré par la grâce du Seigneur. Au siècle dernier, lorsque des bien-aimés du Seigneur, sans aucune prétention, se sont réunis à son nom, dans cet esprit d'Ésaïe 25, d'Ésaïe 26, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Par toi seul, nous ferons mention de ton nom. pouvons bien confesser que c'est l'histoire de l'Église. D'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Mais maintenant, est-ce que nous ne dirons pas, chacun et tous ensemble, par toi seul, nous ferons mention de ton nom. Ô bien-aimé, que toutes nos ressources soient dans le précieux nom du Seigneur Jésus qui est mort et ressuscité pour nous.
Pour la foi, rien n'est impossible au grand Dieu dont nous dépendons. Elle est l'œil qui voit l'invisible, la main qui s'empare des dons, et la saveur déjà sensible des fruits bien avant la saison. Traversant le désert terrible, elle a son cœur à la maison. La foi, c'est se battre sans armes, tout perdre afin de tout gagner, chanter même en versant des larmes, même en souffrant déjà régner, semer en voyant dans la plaine déjà blanche au loin la moisson, obéissante et souveraine, la foi seule a toujours raison. Depuis les premiers patriarches, sans cesse a flotté son drapeau, voyez l'immense armée en marche, dont le chef est déjà là-haut. Elle vient du fond de l'histoire, et notre génération va peut-être, atteignant la gloire, couronner sa vocation. Foi forte d'une certitude, le monde et la mort sont vaincus. Ce qui dicte son attitude, c'est la croix du Seigneur Jésus. Mais tout à l'heure, sur la nuque, chrétiens, vers lui nous partirons, la foi sera changée en but, et c'est Jésus que nous verrons.
Dans ce drame,